Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Depuis la rentrée scolaire, l'université Montpellier-3 connaît une crise budgétaire représentative de la situation des universités en France. Radio Campus revient sur cette période mouvementée, ses causes et ses conséquences. Menacée par les mesures envisagées, l'antenne de Béziers a frôlé la fermeture, une première en France.
Bonjour Monsieur Michel Bourré, vous êtes directeur du centre universitaire du Guesclin à Béziers, antenne de l'université Montpellier-3 où on se trouve en ce moment même. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'antenne de Béziers qui compte, je crois, cette année 700 étudiants. En quelques mots, ce centre universitaire donc, existe depuis 1996. Aujourd'hui, quel type de filière on peut trouver à Béziers?
Alors bon, il y a beaucoup plus d'étudiants. Si on regarde les derniers chiffres, on est pratiquement à 887. C'est un centre qui a été créé en 1996 dans les locaux de la caserne du Guesclin, d'où son nom, et en 1998 dans les locaux où nous nous trouvons. C'est une antenne universitaire, c'est-à-dire moi je suis un directeur nommé par la présidente, je ne suis pas un élu, et nous avons des formations qui existent également à Montpellier, quelques formations originales toutefois. On a une formation de licence et de master, on a licence espagnole, histoire, information et communication, administration économique et sociale, psychologie, licence professionnelle de documentation, j'espère ne pas en oublier. On a également un master de documentation, un master tourisme et développement durable qui est fortement recherché. Et nous avons également un DAE, c'est-à-dire diplôme d'accès aux études universitaires pour les anciens élèves qui n'ont pas le baccalauréat. Et ça leur permet d'intégrer l'enseignement supérieur.
Est-ce qu'on peut donner un type, entre guillemets, un modèle d'étudiants de Béziers? Qui sont-ils? Est-ce que c'est des étudiants de la région qui viennent sur l'antenne de Béziers pour des formations spécifiques? Ou est-ce que ce sont des gens de Béziers qui viennent faire leurs études à l'université?
C'est là une des premières vertus de ce centre, c'est que nous avons des étudiants qui, pour l'essentiel, sont du bassin bitérois. Donc, qui évidemment sont souvent de familles avec des problèmes économiques, ils ne pourraient pas aller ailleurs. Donc, ils sont particulièrement attachés à ce centre. Mais nous avons également, dans des formations originales, je vous parlais du master tourisme et développement durable, des gens qui vont venir de la France entière parce que c'est une formation d'excellence et qui n'existe qu'à Béziers. Donc là, c'est un cas très particulier, c'est du master, c'est du deuxième cycle. Mais en premier cycle, effectivement, ce sont des étudiants qui sont du bassin bitérois. Une particularité cette année, avec un recrutement beaucoup plus large, nous avons créé, la présidente a créé, une classe préparatoire aux grandes écoles entre le lycée Henri IV de Béziers et la fac de Béziers. Et là, on a un recrutement qui est beaucoup plus loin, on peut même aller jusqu'à Nice.
En tant que directeur de l'antenne du centre universitaire du Guesclin de Béziers, vous avez dû passer par toutes les couleurs ces derniers mois. Vous pouvez nous donner votre vision de tous ces événements qui ont touché l'université Montpellier-3.
Nous avons eu des étudiants qui ont joué remarquablement le jeu, qui ont été mobilisés avec un respect considérable et qui ont combattu pour le centre. D'ailleurs, ils en ont été remerciés par le maire de Béziers, qui leur a décerné la médaille de la ville, en présence de la présidente de l'université qui était venue pour cela. Par contre, actuellement, il y a à l'université Paul Valéry une inspection, un audit du ministère avec 4 inspecteurs généraux qui travaillent à une solution de continuité pour faire baisser le déficit structurel de toute l'université, mais également pour trouver les moyens de conserver un site sur Béziers, un site universitaire. Et là, il y a certainement plusieurs pistes de travail, notamment, vraisemblablement, une ouverture au pluridisciplinaire, peut-être avec des formations de Montpellier 1 ou de Montpellier 2. Ces étudiants ont été très, très dignes. Ils ont mené le combat dans leur centre, mais également auprès des politiques. Il y a eu d'ailleurs sur le centre, c'est sur la ville, une belle mobilisation politique, par-delà les clivages. On a ainsi vu, par exemple, au Sénat, le sénateur maire de Béziers, qui est UMP, main dans la main, présenter un projet avec M. Tropeano, qui est un sénateur maire socialiste. Ça a été très particulier parce qu'à l'époque où la crise a commencé, nous avions 700 étudiants. Et nous avons eu, sur ces 700 étudiants, 450 étudiants dans l'amphi. se tenant sans problème. Il n'y a pas eu d'émeute, rien. Donc c'est une proportion qui est énorme. Ça a secoué vraiment dans le Biteron. En plus, le Biterrois est une région qui est vraiment sinistrée. Il y a beaucoup de chômage, de couples vivants au niveau du seuil de pauvreté. Et en plus, on était quand même dans une situation politique délicate. Il va y avoir bientôt des élections municipales. Béziers est un enjeu ou un baromètre. Mais en tout cas, dès le départ, nous avons eu le soutien de toutes les formations politiques sur vraiment tout l'éventail.
Mais est-ce que vous savez quelles coupes seront faites ? Est-ce qu'il y a déjà des coupes de prévues ou là on n'en est vraiment pas encore là ? Dans votre budget qui est déjà petit.
Oui, si vous voulez, alors il faut parler de budget de fonctionnement ou de formation. Au niveau des formations, il n'y a pas véritablement de coupe. Là, il faudra voir pour les années précédentes. On fait très attention, mais c'est quelque chose qui est général à toute l'université. Je suis dans une petite matière, le catalan, et par exemple, sur le site de Montpellier, eh bien, en catalan approfondi, je mutualise les trois années, c'est-à-dire dans une même classe, les étudiants de première, deuxième et troisième année. Donc, ça, c'est un effort qui est général. Au niveau, par contre, du budget de fonctionnement, effectivement, si on préserve les fluides, le paiement du téléphone, de l'eau, etc., on n'a pas grand-chose. Si vous voulez, par exemple, au niveau des fournitures, nous avons 1 500 € pour tourner sur un an. C'est un petit budget.
Quelle solution vous envisagez ? Comment vous appréhendez la rentrée prochaine ?
La seule impression que j'ai, c'est que je crains qu'un certain nombre de parents, voire d'élèves de terminale, aient été un peu échaudés et hésitent à s'inscrire. Pourtant, tous les voyants sont au vert. Nous mettons en place une nouvelle maquette de licence à la rentrée, mais il ne reste pas moins que les formations actuelles restent. Ça a été un engagement de la présidente. L'essentiel de notre travail, c'est pour l'avenir, le moyen terme. Et là, effectivement, il n'y a pas de tabou. Il y a des formations qui marchent bien en termes d'effectifs. Il y en a qui marchent moins bien. Il faudra y réfléchir. Peut-être même à des solutions très, très originales, c'est-à-dire des langues qui peuvent intervenir, mais comme non seulement comme langue pour non spécialistes, mais peut-être comme option. L'enseignement change dans sa façon, mais également peut-être même dans son orientation. Par contre, il est certain qu'il y a un travail qu'il faut faire à Béziers, je dirais en relation avec les acteurs du territoire, les attentes. Déjà, c'est une chose que je fais, je dirais presque au quotidien, de chercher des chefs d'entreprise pour accueillir mes stagiaires, que ce soit en stage non rémunéré ou même en stage rémunéré. C'est beaucoup plus facile qu'à Montpellier.
Juste pour conclure, quelles sont les prochaines échéances ?
Moi, ce qui m'importait, c'était qu'à court terme, on ne nous donne pas de solution à court terme. Je veux du moyen terme. Le long terme, je n'y crois pas. On ne sait pas ce que sera l'université dans un certain nombre d'années. Par contre, on a des échéances qui sont déjà fixées. Le 1er septembre 2014, on met en place les nouvelles licences. Le 1er septembre 2015, les nouveaux masters. Très souvent en France, on refait les maquettes, donc on a ces premières échéances. Pour le reste, alors par contre, tout est ouvert parce que je n'ai pas encore rencontré Madame la rectrice qui a été nommée il y a peu de temps. Elle prend, je sais, ce sujet très, très à cœur. Je pense qu'il y aura des discussions qui seront interuniversitaires. Et il n'est pas exclu que le centre du Guesclin, actuellement géré par l'université Montpellier 3, dont il est une antenne, n'ait pas des formations émanant d'autres universités. C'est possible.
Univox.
Aujourd'hui, on est avec Romain Nicoulo. Bonjour Romain.
Bonjour.
Et donc toi, tu es président de l'UNEF de Montpellier. Tu peux peut-être nous faire un petit point sur ce que c'est l'UNEF.
Donc l'UNEF, c'est le syndicat étudiant. Donc on fait un petit peu le lien entre ce qui se passe au sein des conseils où on a des élus, on essaye de peser pour obtenir toujours plus de droits étudiants et aller dans l'intérêt des étudiants. Et en parallèle de ça, on mène aussi des campagnes donc, sur le terrain auprès des étudiants, surtout pour les informer de ce qui se passe, les enjeux.
Et donc aujourd'hui, tu viens un peu nous parler de la situation de Paul Valéry, qui a connu de nombreuses aventures très mouvementées ces derniers temps. Depuis septembre déjà, la faculté connaît des blocus, des problèmes de budget.
Donc très rapidement, ça a commencé parce que au premier conseil d'administration, donc qui était mi-septembre, il y a la direction qui a annoncé, là c'est simple, il y a 3,6 millions d'euros de déficit, on va faire des mesures de restriction du coup. Donc en gros, fermeture du site de Béziers, la mise en place de sélections en L1, la suppression des contrats doctoraux, tout l'encadrement pédagogique aussi qui allait prendre des coupes pour les étudiants étrangers aussi, tout ce qui est accompagnement par rapport à l'apprentissage de la langue. Donc voilà, c'est toutes ces mesures-là qui font que c'est notre encadrement, nos chances de réussite qui prennent un coup, quoi. Il y a la présidente qui a fait un petit peu de communication pour interpeller le ministère, notamment. Après, en parallèle, donc il y a les syndicats de Paul Valéry qui ont commencé à faire tourner l'information, à mobiliser les étudiants en appelant une première assemblée générale. Ensuite, comme à chaque mobilisation, il s'est mis en place un comité pour prendre la suite et que ce soit vraiment du coup les étudiants qui prennent la main sur le mouvement, quoi.
Et donc cette assemblée, ce comité d'élèves a pris certaines mesures, notamment des blocus. Quasiment dès le début, ça s'est décidé assez rapidement, les blocus.
Oui, quelque part, il y a une certaine... Il y a eu des étudiants mobilisés, du coup, une certaine partie qui commençait à en avoir marre parce que ça allait pas assez vite. Parce que, oui, la situation était très grave, mais il y avait un énorme travail d'information à faire. Et du coup, il y en a qui ont commencé à parler de bloquer la fac pour que les gens soient quelque part obligés de s'intéresser au sujet, quoi. Après, moi, personnellement, je pense pas que ce soit la meilleure méthode. Et donc c'est pas le comité de mobilisation, c'est vraiment en assemblée générale que ça a été décidé, quoi.
Alors peut-être qu'il y a eu une diminution de la mobilisation, peut-être aussi parce que la situation s'est un peu débloquée, il y a eu un dégel de budget fin 2013.
Ça a dû être le cas pour un certain nombre de personnes. Moi, après, ce que je vois, c'est que avec la mobilisation qu'on a connue là, on a déjà réussi à obtenir des avancées, donc c'est la preuve que ça marche. Et j'ai envie de dire que si on avait continué, là on aurait vraiment réussi à obtenir de vraies avancées, donc une vraie augmentation du financement des universités, parce que c'était ça le but de la mobilisation.
Tu as parlé de mesures tout à l'heure pour pallier au déficit de l'université. Donc récemment il y a un conseil qui s'est tenu, certaines de ces mesures ont été adoptées, d'autres pas. Est-ce que tu peux nous faire le point dessus ?
Le site de Béziers, il ne sera pas fermé, contrairement à ce qui a été annoncé à la base. La sélection en L1, en tant que telle, elle ne se fera pas dès l'an prochain. Il y a des capacités d'accueil, par contre, qui ont été votées. Donc, ça veut dire qu'on prend les étudiants jusqu'au plafond qui a été fixé. Après, ce plafond, il est quand même assez large. Donc, pour l'an prochain, il y aura quelques étudiants qui seront... qui commenceront à être refusés, quoi, mais ça va pas marcher, vraiment pas marcher les autres années, quoi, étant donné que d'année en année il y a toujours plus d'étudiants qui viennent à l'université. Et là on touche à un principe très grave, quoi, qui est la démocratisation de l'enseignement supérieur, donc faire en sorte que chacun puisse y accéder, quoi. Et là il y a une vraie sélection qui commence à se mettre en place, qui se profile, et en plus ça se fait de manière tout à fait aléatoire, quoi.
D'ailleurs, l'université Paul Valéry était l'une des dernières à garder ses licences ouvertes à place illimitée. L'une des dernières en France à pratiquer en tout cas ce mode d'entrée.
Oui, alors c'est ce qui a été défendu par l'administration, quoi, quand ils ont mis en place ces capacités d'accueil, en disant, par exemple, en cinéma, on est à 600 personnes à peu près. Quand on voit les autres universités, je crois qu'il y en a une vers Nantes. Enfin, il y en a une dans le nord, en gros, et il y en a une autre à Bordeaux ou Toulouse, je ne sais plus exactement, où eux, il y a déjà les capacités d'accueil, et c'est 60 personnes, donc ils le présentent comme ça, mais c'est tout de même des mesures qui vont à l'encontre des étudiants, et donc c'est incompréhensible, quoi.
Et c'est vrai qu'on parle depuis pas très longtemps des MOOC, de ces cours en ligne, de ces cours vidéo qui seraient disponibles pour les étudiants, qui leur permettraient, d'un côté, c'est une balance en fait, d'un côté, ça permet aux étudiants d'assister à des cours sans forcément venir à la faculté ou d'assister dans des cours en amphi avec une vidéo d'un prof qui fait le cours. Et d'un autre côté, ça fait beaucoup moins de présentiel de la part du corps enseignant. Est-ce que tu penses que c'est une marche en avant, un progrès, ou au contraire une mauvaise chose et quelque chose de très négatif pour l'enseignement dans sa dimension pédagogique ?
Ce principe-là de vidéo, il a déjà commencé à être mis en place. Notamment parce qu'il y avait des manques de budget, donc pour deux filières identiques, il y avait un premier amphi où ils avaient le prof et l'autre dans une autre ville. C'est le cas pour médecine entre Montpellier et Nîmes, quoi. Dans l'autre amphi, ils ont le prof qui est filmé, du coup, et la retransmission, quoi. Sauf que ben, quand il y a des erreurs vidéo, ben, ça ne marche pas. Et en plus, il y a tout le côté pédagogique. J'ai un prof en face de moi, je viens dans l'amphi. Ce côté-là humain, que je peux poser des questions, aller voir le prof à la fin du cours si j'ai un souci, qui est totalement absent, quoi.
Donc on a parlé des mobilisations passées et des mobilisations récentes. Est-ce que l'université Paul Valéry doit continuer finalement son combat, si je peux employer le terme? Est-ce que l'UNEF, en tout cas, va essayer de prendre des mesures pour pallier à ces réformes ou à ce manque de budget, à cette dégradation de l'université?
Oui, alors là, c'est un peu le moment compliqué, quoi. Parce que d'un côté, on a commencé à obtenir des avancées, donc on serait tenté de dire que, ben oui, si on continue, enfin, c'est la logique, quoi. Si on continue à pousser, ben oui, on arrivera à obtenir beaucoup plus. Après, le problème, c'est que, ben, en Assemblée Générale, on l'a vu hier, il n'y a absolument plus personne. Donc, pour moi, je pense que pour l'instant, ben, on a obtenu quand même une petite avancée. Ça permet de limiter la casse quelque part. Je pense que continuer là pour l'instant, c'est faire des efforts pour pas grand chose, quoi, malheureusement. On ne peut rien obtenir si tout le monde ne se mobilise pas, quoi. Et je pense que pour l'instant, ben, malheureusement, le combat, il est remis à la rentrée prochaine, quoi.
Univox.
Je suis Christophe Joubert, je suis professeur à l'université en cinéma. Ah, là, on est à l'Université Paul Valéry. On est à une réunion que mes collègues et moi-même avons motivée. On a convié tous les étudiants, d'abord de cinéma, à venir pour réfléchir un petit peu et discuter sur les problèmes actuels de l'université. Les problèmes budgétaires qui sont liés à des problèmes beaucoup plus larges, structurels, qui touchent toutes les universités en France, et notamment Paul Valéry, depuis justement l'application de la loi LRU et la loi Fioraso qui vient redoubler derrière. Et puis le pronostic est assez sombre puisque l'université se transforme, mais pas forcément dans le bon sens. Ce soir, on c'est un peu, en fait, pour expliquer rapidement, c'est une soirée test parce que voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a une opération de blocage qui s'est faite. On revient pas dessus, c'était très bien, ça a pu alerter un peu tout le monde. Maintenant, le blocage, il faut cesser absolument de bloquer l'université parce que l'université, quand elle est bloquée, elle se vide et elle perd toute action, toute possibilité d'action, et elle perd aussi sa définition. Et quelque part, il nous est arrivé de penser à ça, c'est que l'université est bloquée, c'est un petit peu un signe avant-coureur de ce qui va arriver à l'université. Donc ce n'est pas la peine de la bloquer maintenant, au contraire, il faut la faire vivre, c'est ce qui permettra de peut-être sortir de l'ornière.
Je m'appelle Caroline Saint-Martin, je suis enseignante à l'université Paul Valéry en cinéma. On a vu l'université Le Grand Soir, qui est un film qui a été réalisé avec l'aide d'un collectif qui s'appelle Sauvons la Recherche et qui faisait part de la mobilisation en fait des universitaires sur les conditions de travail à l'université. Du coup, ce qui était intéressant, c'était de montrer que les problèmes posés par cette loi sont encore d'actualité, dans le sens où il y a certaines questions en fait qui reviennent aujourd'hui dans les débats par rapport aux nouvelles lois qui concernent l'université. Bah, on espère que ça va pouvoir avoir une suite, dans le sens où l'idée, c'est que ce qui était intéressant dans ce choix de film, je crois, c'était aussi de donner la parole au corps enseignant et rendre compte en fait de la complexité d'un problème, puisque ce qui était intéressant aussi dans le film, c'était tous les différents aspects qui sont concernés par le changement en fait dans l'appréhension des études supérieures en France, et on voit bien que c'est pas quelque chose qui touche uniquement l'enseignement, mais qui rend compte d'une politique en fait plus globale qui justement n'est pas toujours bénéfique pour la transmission du savoir, qui n'aboutit pas à une concrétisation directe, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas une marchandise, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas un étudiant en kit et prêt à l'emploi pour l'entreprise. Donc on espère évidemment qu'on aura sensibilisé, on aura fait entendre la complexité d'un problème et qu'on pourra inventer du dialogue à venir, quoi, avec les étudiants.
Univox.
Bonjour Anne Fraisse.
Bonjour.
Donc vous êtes présidente de l'Université Montpellier 3. On vient vous voir aujourd'hui pour faire un peu un point sur les derniers mois après le tumulte médiatique dont l'Université Montpellier 3 a fait l'objet suite au bilan budgétaire en déficit et à votre annonce à la rentrée de la possible fermeture de l'antenne de Béziers. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation aujourd'hui et peut-être un rappel rapide sur ce qui s'est passé ces derniers mois ?
Oui, mais il y avait un déficit intenable dû essentiellement à des mesures prises par l'État pour réduire la masse salariale, hein, très clairement, et des mesures que l'université n'était pas en mesure de supporter. La situation a été débloquée par un certain nombre de mesures nationales annoncées par le ministère, et en particulier une meilleure prise en compte de la compensation boursière qui avait été totalement réduite dans les années précédentes. Or, l'université Montpellier 3, ayant un nombre très important de boursiers, était touchée de plein fouet par la réduction de la compensation boursière et surtout par l'augmentation du nombre de boursiers qui ne payaient pas leurs droits d'inscription sans qu'il y ait compensation. Donc là, l'État ayant donner une partie de cette compensation, ça a permis pour nous d'équilibrer, pas totalement, mais en tout cas de réduire le déficit à un niveau que nous pouvons supporter en prenant dans le fonds de réserve, ce qui n'était pas le cas à la rentrée.
Donc récemment, vous avez eu début janvier le conseil d'administration où vous avez justement établi le déficit budgétaire à 1,5
million. Oui.
Vous avez annoncé également que l'antenne de Béziers serait maintenue. En revanche, il y a des nouvelles mesures de restriction budgétaire qui sont prévues. Est-ce que vous savez lesquelles seront mises en place ?
Finalement, il y a peu des mesures qui avaient été annoncées, parce qu'on avait annoncé la fermeture de Béziers, mais aussi d'autres mesures. Peu de ces mesures ont été mises en place. On a simplement geler les postes que ils n'étaient même pas encore donnés, mais les postes que l'État nous a promis pour 2014 n'ont pas été mis au concours. Mais par contre, on a gelé aucun des postes de la campagne d'emploi. Voilà. Par contre, on a mis, comme il avait été annoncé, des capacités d'accueil sur 5 de nos filières de licence. Mais là, de toute façon, à un niveau qui fait que nous prendrons tous les étudiants de l'Académie. Simplement, le problème, en fait, il n'est pas sur l'Académie de Montpellier. Il est sur les autres académies où certaines universités ont mis des capacités d'accueil qui sont extrêmement étroites. Mais cela dit, il faut savoir que là aussi, c'est une politique qui est induite par ce que nous demande l'État. Clairement, là, nous avons une visite des inspecteurs après un bilan flash, nous avons l'audit approfondi. Eh bien, ce qu'on nous explique, c'est que, eh bien, oui, vous n'avez pas assez pour accueillir autant d'étudiants. Comme on ne peut pas vous donner plus, il faut que vous ayez moins d'étudiants. Et on ne nous demande pas de fermer obligatoirement les petites filières où on a peu d'effectifs. On nous demande au contraire de fermer, ou en tout cas de réduire les capacités d'accueil dans les filières où on a beaucoup d'étudiants, ce qui explique ce qu'ont fait certains de mes collègues dans d'autres académies. Pour ne pas avoir d'heures complémentaires, eh bien, vous ne prenez que le nombre d'étudiants que vous êtes capable d'accueillir dans une filière.
Quelle autre solution avez-vous pour rétablir ce déficit budgétaire ?
Les mesures que l'État a annoncées, elles sont sur plusieurs années et certaines sont en augmentation. Donc on peut espérer en partie combler ce déficit, mais il va falloir effectivement trouver des économies. De toute façon, c'est clairement la politique qui est menée. On est bien obligé de passer par là, mais je crois qu'il fallait protester aussi en disant que sous couvert de l'autonomie, l'État continue à agir sur la masse salariale d'une façon massive. Si ce déficit reste à 1,5 million, on arrivera à régler la question, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures que l'État prendrait sur ces masses salariales. Et d'ailleurs, on est d'autant moins à l'abri qu'il y a une mesure qui vient de sortir de nouveau sur cette masse salariale et qui va encore accroître le déficit des universités. C'est l'augmentation des salaires des catégories C, où on nous explique que, comme il y a une autre petite mesure qui passe en même temps, qui va rapporter un petit peu d'argent, eh bien, ça équilibrera. Or, quand on fait le compte, ces deux mesures ne s'équilibrent pas du tout. Alors, on nous dit, on vous remboursera en fin d'année. Oui, ça veut dire qu'une année, on nous remboursera et que la deuxième année, non. C'est un peu technique tout ça, mais très clairement, l'État agit sur la masse salariale encore pour faire baisser cette masse salariale. Et les universités ne peuvent plus supporter ce poids-là.
Au niveau du gouvernement, du coup, est-ce qu'il y a des commissions, des choses qui sont mises en place pour réfléchir plus sur le long terme ? On est vraiment justement que dans l'urgence ?
Pour l'instant, on n'est que dans l'urgence, parce qu'on est dans cette politique-là. Enfin, je pense, c'est pas par inadvertance. Hein. C'est une politique qui est menée depuis plusieurs années, qui a enchaîné de la droite à la gauche, c'est la même. Et cette politique, elle est menée depuis des années. Donc, ils ne peuvent pas dire, ah tiens, on s'en était pas aperçu. C'est voulu, et donc ça n'a pas de raison de s'arrêter en soi.
Et quel poids, vous tous, présidents des universités, vous pouvez avoir pour essayer justement de faire avancer la réflexion sur autre chose ?
Il y a un poids possible, mais il reste quand même assez limité par les problèmes de la crise et des financements. Que dire d'autre que si on ne donne pas les moyens d'assurer les missions qui nous sont confiées, on ne pourra pas les assurer, je veux dire, à un moment quelconque. Donc oui, il y a quelques réflexions, il y a quelques pistes, il y a la remise à plat du système SIMPA, c'est-à-dire du système de répartition de l'argent. Mais à partir du moment où c'est dans une enveloppe fermée, on se redistribue entre nous, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est est-ce que la France consacre assez d'argent à son enseignement supérieur en sachant qu'on est à peine au milieu de ce que consacrent les pays de l'OCDE, et en sachant en plus qu'avec le système des écoles et des universités, si on regarde que les universités, on est largement en dessous. C'est sur ce système-là qu'il faut un peu s'interroger. Est-ce qu'en temps de crise, c'est une bonne chose de sacrifier la jeunesse, tout en proclamant d'ailleurs que c'est la jeunesse qu'on met en tête des priorités ?
Quelles seraient, selon vous, les perspectives possibles, tout en essayant de maintenir le niveau de qualité d'enseignement ?
Je pense déjà stopper les réformes dont le but est clairement de faire baisser la masse salariale. Voilà. Ne plus en mettre, parce que là, on a atteint un équilibre ou un déséquilibre, mais qui, de toute façon, on va complètement plongé dans la crise si ça continue comme ça. Enfin, là, il y a déjà quelques universités qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Alors, on nous dit après, elles ne le sont plus. Hein. On a les experts qui viennent, après, elles ne le sont plus. Oui, mais elles ont pris les mesures qu'on attend d'elles. Et à ce moment-là, on va se retrouver dans une autre forme de crise où il va manquer des places pour les étudiants. Si tout le monde ferme ses licences ou réduit le nombre d'étudiants accueillis en licence, il finira par ne plus y avoir de place. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller, très clairement.
Donc pour vous, ce qui serait nécessaire aujourd'hui, c'est que l'État prenne en charge de manière complète les salaires.
Que l'État arrête de nous balancer des mesures successives de plus en plus coûteuses et de plus en plus inutiles au nom de principes de fusion, de regroupement, de machin, qui ne font qu'empiler des structures qui coûtent cher à tout le monde, hein, et qu'on s'attache plutôt aux problèmes qui sont ceux de l'entrée en première année à l'université, qu'on pose les questions clairement une fois pour toutes et qu'on ne mette pas la poussière sous le tapis. Voilà ce qui pourrait être utile.
Si on regarde simplement ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on va vers un système plus anglo-saxon avec une accession simplement à l'éducation réservée à des élites et qui...
Il faudrait poser la question au gouvernement, personnellement. Je ne sais strictement pas où est-ce qu'ils veulent nous amener. Tout ce que je vois, c'est ce qu'ils envisagent de faire très précisément, c'est diminuer la masse salariale des universités. Voilà. Donc, évidemment, si vous avez moins d'enseignants et moins de personnel IATOS, enfin, qui encadre l'enseignement, ben, vous avez forcément moins d'étudiants. Hein. Il y a un ratio qu'on ne peut pas dépasser. À un moment quelconque, le personnel ne peut pas encadrer plus d'étudiants, toujours plus d'étudiants, en étant toujours moins nombreux. Donc oui, ça veut dire clairement moins d'étudiants. Je pense que c'est le but qui est poursuivi, qui est totalement contradictoire avec les déclarations faites. Donc c'est extrêmement inquiétant parce qu'on ne sait pas où on va pour l'instant.
Le modèle de l'université, c'est un modèle qui évolue, mais certains le considèrent en tout cas peut-être loin de l'entrée dans le monde professionnel. Quelle est votre...
Là, c'est une fausse vision des universités. On sait très bien qu'il y a de très bons taux d'insertion. Alors, c'est surtout vrai au niveau du master. Hein, c'est vrai que les débouchés professionnels des universités, c'est soit au niveau de la licence pro, soit au niveau des masters. Qu'il y ait encore du travail à faire, oui, mais ça, c'est une vision tout à fait dépassée de l'université. L'université, ça fait longtemps qu'elle a pris ce virage de la professionnalisation.
Les prochaines échéances, parce que donc là, il y a eu effectivement l'audit flash.
Oui, donc on a un audit approfondi qui a commencé là déjà en janvier et qui va aller jusqu'à avril. Mais ça, c'est pas quelque chose obligatoirement qui me déplaît. Hein. L'audit flash nous a plutôt servi puisqu'il a reconnu très clairement que le déficit n'était pas une question de gestion, mais était un déficit structurel, dû, comme on le disait, aux mesures que prenait l'État. Donc nous, un audit approfondi ne nous gêne pas plus, parce qu'on va voir ce qu'on peut nous donner comme idée. Cet audit, avec des gens qui sont extrêmement compétents, c'est intéressant. Mais en même temps, on voit derrière quelle est la politique qu'on veut nous faire mener. Et ça, il n'est pas dit que nous soyons tout à fait décidés à nous plier à ce type de politique. En tout cas, sans, sans l'afficher.
C'était Anne Freys, présidente de l'Université Montpellier 3 pour Univox sur Radio Campus.